Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Raison gardée, l'émission des Libres Penseurs de Meurthe et Moselle sur votre radio RCN. Aujourd'hui, avec moi au micro, Huguette. Bonjour Huguette.
Bonjour Sylvie.
Et on se propose aujourd'hui de poser quelques repères historiques sur un conflit qui dure, qui est traité avec beaucoup de passion, souvent. Et donc, on vous propose tout simplement d'avoir quelques repères, de partager avec vous quelques repères sur le conflit entre la Palestine et Israël, à partir de quelques dates clés pour resituer historiquement ce conflit qui frappe des peuples aujourd'hui qui n'ont rien demandé, comme la plupart du temps dans toutes ces guerres. Alors pour commencer, peut-être une définition d'un mot qu'on entend souvent, on entend plutôt l'adjectif anti-sioniste, et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être repartir de ce qu'est le sionisme qui est au cœur justement de ce conflit. Le sionisme, c'est un mouvement en fait, hein, qui rassemble ceux qui veulent trouver pour les juifs une terre qui leur permette de vivre en sécurité. C'est un mouvement qui émerge plutôt à la fin du 19e siècle et il s'appelle ainsi en référence à la colline de Sion qui est au sud de la vieille ville de Jérusalem et qui finit par désigner de manière un peu générique Jérusalem elle-même, donc ville sainte pour plusieurs religions dont la religion juive. Alors c'est un mouvement qui est assez spontané au début et on voit une figure un peu tutélaire de ce mouvement qui s'appelle Léo Pinsker, qui est un des premiers à parler de l'émancipation du peuple juif. Et c'est quelqu'un qui, toute une partie de sa vie, donc il est né en 1821, il meurt en 1891, qui était médecin et qui était un militant pour justement le sionisme. Et il a écrit une brochure publiée en 1882 qui s'appelle « Auto-émancipation ». Et il développe certains des thèmes majeurs du sionisme, dont l'idée de la création d'un État indépendant, qui n'était pas forcément placé en Israël, qui pouvait être ailleurs. Et les historiens disent que dans les projets, il avait été question, par exemple, de l'Argentine, ce qui m'a étonnée, mais qui était une terre apparemment de migration importante à la fin du 19e siècle. Et certains s'étaient demandé s'il n'y avait pas là peut-être
de la place
pour le peuple juif. Et c'est assez étonnant. D'autres avaient fait des options sur des territoires d'Amérique du Nord. L'idée de la terre d'Israël n'était pas forcément une idée communément partagée. Alors pourquoi en 1882 écrire cette brochure? Eh bien, il faut rappeler qu'il y avait eu en Russie des pogroms. D'ailleurs, le mot pogrom vient de la langue russe, hein, en 1881. C'est-à-dire vraiment des massacres de communautés juives dans l'Empire tsariste. Et ces massacres, évidemment, ont bouleversé les Juifs qui se sont rendus compte qu'après tous ces siècles aussi d'errance, d'interdiction de travailler d'avoir certains métiers, la tolérance religieuse qui leur était accordée parfois dans certains endroits, puis retirée, etc., faisait de leur peuple un peuple toujours un peu en danger. Donc, l'idée était de trouver effectivement une terre. Il y a même eu Madagascar, dans les projets, j'ai vu, oui, Madagascar. Et puis, le deuxième nom qu'on peut retenir, c'est celui de Théodore Herzl, je ne sais pas si je le prononce bien, qui en 1896 publie un manifeste sioniste qui s'appelle « L'État des Juifs ». Et il dit notamment, il porte la pensée d'autres personnes avec lui, que l'idée d'une terre pourrait se matérialiser en Palestine, qui est vue comme une terre sainte, donc je mets des guillemets bien sûr, hein. Et il envisage encore l'idée de l'Argentine, je crois, mais bon, il commence vraiment à se développer à ce moment-là, l'idée que ça peut être la Palestine. Et après le décès de ce Theodor Herzl en 1904, les Juifs se reconnaissent dans ce projet. Il y a notamment une pression très forte des Juifs russes et polonais qui ont gardé la mémoire des pogroms, et il y a toute une communauté intellectuelle et culturelle juive qui commence à militer, hein, pour le projet d'un État en Palestine. Donc, il n'est pas tout immédiatement un projet majoritaire, qui est un projet au début minoritaire. Et le slogan, on pourrait dire, enfin, ce qui est répété souvent, c'est que il faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et c'est là peut-être que le problème commence. Un historien, voilà, parle de cécité volontaire de la communauté internationale. C'est que ce n'était pas une terre sans peuple. Et les choses se précisent vers la fin de la Première Guerre mondiale. Mmh. 1917, la déclaration, dite déclaration Balfour, du ministre britannique des Affaires étrangères, qui écrit à... alors je vais retrouver exactement le destinataire, c'est la Fédération sioniste, voilà. Et qui écrit à Lord Rothschild, qui est à la tête de cette association, et qui dit: « Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. » Et voici donc cette déclaration: « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et aux statuts politiques dont les juifs jouissent dans tout autre pays. » Parce que l'une des autres options était bien sûr de travailler avec les autres États pour... que les Juifs se sentent plus en sécurité avec des droits plus fermement protégés. Il finit: « Je vous serai reconnaissant de faire porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. » Alors, pourquoi les Britanniques en particulier ? Eh bien parce que, et donc c'est validé en 1920, les Britanniques ont un mandat sur, on va dire, la Palestine. Quoi. Mmh. Les Français ont un mandat de protectorat sur le Liban, la Syrie.
Et la Syrie, oui. Ouais.
Et donc voilà, les choses commencent à prendre un peu forme avec cette déclaration Balfour.
Alors on peut juste dire que justement la Palestine, avant la guerre de 14-18, était donc sous domination de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, qui... pendant la guerre, était dans le camp de l'Allemagne. Et la Palestine comportait 590 000 habitants, dont 57 000 juifs à cette époque. Voilà. Et on continue ?
Oui, oui. Alors après, il y a eu la défaite de l'Empire
ottoman. Alors après la guerre de la 14-18, la Société des Nations, donc la SDN, comme tu l'as dit, en 1920, délègue au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine et en même temps un mandat à la France sur la Syrie et le Liban, qui pour la France prendra fin en 1944. Donc tu as bien dit que Londres devient gestionnaire du territoire et doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Mais c'est seulement en 1947 que l'ONU établit un plan de partage de la Palestine. Et c'est la résolution 181 de l'ONU en novembre 1947 qui prévoit une séparation de la Palestine en trois zones, un État juif, un État arabe et une zone sous contrôle international qui inclut Jérusalem et sa proche banlieue. Ce plan de partage est accepté par une forte majorité des représentants de la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la quasi-totalité des représentants des Arabes de Palestine, comme par les États arabes voisins. Donc ça commence quand même avec un état des lieux un petit peu difficile, on va dire.
On peut même dire que entre le moment où les Britanniques ont ce mandat et la déclaration, la résolution de l'ONU, il y avait déjà une immigration juive en Palestine. Mmh. Alors avec des achats de territoires, par exemple, à des propriétaires arabes qui parfois n'habitaient pas ces terres-là et qui ont accepté de les vendre. Rothschild a contribué à alimenter une caisse qui permettait l'achat de ces terres. Et il y avait déjà eu aussi des heurts assez violents avec des personnes qui habitaient sur ces terres-là avant le partage. Il faut aussi préciser que dès le début, il y a effectivement des tensions entre ceux qui veulent absolument, bien sûr, défendre leur terre pour la conserver, et puis des mouvements portés par des juifs qui, eux, veulent vraiment prendre possession pleinement de ce territoire. Et il y a déjà des tensions très fortes. Il y a des organisations, il y a notamment une organisation extrémiste juive qui s'appelle Irgun, qui a mené un attentat célèbre, l'attentat de l'hôtel King David, contre les Britanniques. Et là, c'était en juillet 46. Donc, il y a vraiment une tension très, très forte, avec des forces en présence qui sont dans l'affrontement déjà, qui peuvent être assez violents. Mmh. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a un film de Preminger qui s'appelle Exodus, qui évoque cette histoire, mais de façon très, très romancée. Enfin, c'est une fiction. Mais il y a l'histoire de ces navires, de migrants juifs qui arrivent vers la Palestine, et justement les Britanniques sont obligés parfois d'arraisonner ces navires et de les renvoyer ailleurs, parce que sinon le flux n'est plus contrôlé correctement par eux, donc à l'époque où ils ont encore pleinement mandat sur cette zone. Et donc le partage voulu par, enfin pensé par l'ONU, était pensé peut-être comme une solution, mais une solution peut-être un peu à coup de crayon, menée dans des bureaux un peu éloignés de la situation sur les territoires.
Parce que finalement, le territoire de Gaza avait dans ce plan une frontière avec la Méditerranée, le long de la Méditerranée, et aussi le long de l'Égypte. Et puis il y avait la zone de Jérusalem, autour de Jérusalem. Et là, alors, l'État juif, une zone internationale autour de Jérusalem, mais aussi l'État juif, l'État arabe en Cisjordanie. Et puis il y avait encore l'État arabe qui avait une petite surface un peu plus près du Liban, vers Nazareth. Donc ça fait plusieurs zones pour l'État soi-disant arabe. Et par exemple, la grande ville de Jaffa musulmane était en plein territoire juif, à côté de Tel Aviv, et des complications à venir qui se dessinent largement à cette époque-là. Mais c'était encore qu'un plan de partage qui pouvait être discuté.
Donc, le 14 mai 1948, Ben Gourion, futur Premier ministre de l'État hébreu, déclare l'indépendance d'Israël au dernier jour même du mandat britannique. Il déclare donc cette indépendance à Tel Aviv. Et donc on obtient effectivement une souveraineté politique sur un peu plus de la moitié du territoire. Mais il y a des tas de questions qui restent sans réponse. Les chrétiens, les musulmans doivent-ils quitter le territoire? Que va-t-il se passer pour la population non juive?
La mise en œuvre du partage n'a pas été faite alors qu'il aurait dû l'être avant l'échéance. Voilà, donc Ben Gourion a décidé tout de suite... quelque chose.
Et donc pour les Palestiniens, c'est ce qu'on appelle la Nakba, le désastre, l'exode, l'expulsion d'Arabes palestiniens.
Enfin, il faut dire que juste après l'action de Ben Gourion, qui déclare donc l'indépendance, le 14 mai 48 à Tel Aviv, à ce moment-là, juste après, eh bien, c'est les armées de plusieurs pays arabes qui envahissent le territoire de l'ancienne Palestine. Donc c'est la guerre.
C'est la guerre. Et c'est vrai que tout ce moment-là peut permettre de comprendre un peu ce qui se joue encore aujourd'hui au Moyen-Orient et toutes les alliances internationales autour de ce conflit.
Et donc il y a plein d'armées arabes qui sont en route, hein, égyptiennes, jordaniennes, syriennes, libanaises et même irakiennes de tous les côtés. Toutes ces attaques sont repoussées. Hein, et au final... l'État hébreu conquiert au contraire un vaste territoire, bien plus étendu que celui proposé dans la partition de l'ONU. C'est la Nakba, comme tu viens de le dire, la catastrophe.
Donc on estime à peu près 900 000 Palestiniens, le nombre.
Alors moi j'ai ici l'exil forcé de 600 000 à 800 000 Palestiniens, les chiffres sont toujours à... Au revoir.
Hein. Il y a des historiens qui disent que les chiffres ont été un peu sous-estimés, que avec le recul, il devient un peu difficile parfois de faire un calcul exact. En tout cas, c'est un nombre très important, évidemment, qui partent vers la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, la Jordanie. Et avec ensuite, alors il y a une aide humanitaire importante dans les pays alentours, mais il y a aussi des différences de statut juridique ensuite pour ces exilés. Certains vont obtenir, Jordanie offre la nationalité jordanienne, par exemple.
Ah oui.
La Syrie donne des droits, mais pas la nationalité. Le Liban ne donne pas la nationalité et interdit certaines professions. Il y a des exilés qui vont rester dans des camps, dont je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Par exemple, le camp de Sabra et Shatila, qui est tragiquement connu. Donc, il y a une diaspora importante, avec pour ces exilés des situations aussi très très diverses. Et puis toujours cette pensée, cet espoir d'un retour pour beaucoup d'entre eux.
Et puis il y a l'action inverse qui arrive donc avec la guerre des six jours en 1967. C'est Israël qui attaque l'Égypte à cause du blocus de ses navires en mer Rouge, qui considère que c'est un acte de guerre en violation du droit international, et qui a un succès militaire très rapide au Sinaï. Et Israël attaque aussi la Jordanie en Cisjordanie, puis la Syrie sur le plateau du Golan. Et le résultat est une victoire spectaculaire. Donc Israël occupe toute la péninsule du Sinaï égyptienne, rétablit la circulation de ses navires, étend son occupation sur la bande de Gaza, sur la Cisjordanie, donc à côté de la Jordanie, sur le plateau du Golan, hein, près de la Syrie. Et cette guerre provoque un deuxième exode, estimé par l'ONU à près de 500 000 Palestiniens arabes. Là aussi, il faut voir. Pourtant, le Conseil de sécurité de l'ONU intervient et souligne l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre, incite sur la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable, demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours de ce récent conflit. Il gardera tout de même le Golan, je pense. Et puis, néanmoins, la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie débute.
Et il y a
après la guerre des six jours, elle débute quand même.
Et il y a eu depuis 11 résolutions de l'ONU.
Considérant qu'elle est illégale, que cette colonisation est illégale. Depuis entre 1967 et 2016, il y a eu je ne sais pas combien de résolutions.
11, moi j'ai trouvé 11.
11, oui, d'accord.
Qui sont restées sans effet.
Ensuite, c'est...
La guerre du Kippour.
La guerre du Kippour.
Et oui, 6 ans plus tard, 1973.
Oui, du fait de l'occupation israélienne du Sinaï, des tensions du côté égyptien, et l'Égypte et la Syrie cherchent à envahir l'État hébreu par le sud et par le nord. Donc la guerre du Kippour. Et pourtant les armées israéliennes avaient eu des renseignements qui indiquaient l'imminence de cette attaque. Donc l'Égypte reprend le canal de Suez, mais ne s'approche pas de la frontière d'Israël.
Yom Kippour, qui, rappelons-le, est une fête très importante dans le calendrier juif.
Oui. Donc, la contre-offensive d'Israël, avant le cessez-feu, Israël reprend une partie du canal, encercle une partie de l'armée égyptienne. Dans le Golan, les forces syriennes pèsent d'abord les défenses avant d'être foulées. Donc, Israël avance glorieusement. Et ce sont les pourparlers de paix de Camp David entre Israël et l'Égypte.
Je propose une toute petite pause dans ces repères chronologiques avec une belle chanson qui résonne lors des marches de femmes pour la paix, des femmes qui s'assemblent, des femmes musulmanes et juives qui s'assemblent pour cette paix. Et c'est une très belle chanson de Yaël Deckelbaum, « La prière des femmes ».
רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין אל-ארד וסמע ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان ما تعيب سوخ ما تبخت
Deckelbaum, la prière des femmes. On revient à nos repères historiques sur le conflit israélo-palestinien sur RCN, dans Raison Gardée, avec Huguette. Pour resituer, on était en train de parler...
En 1979, des accords de Camp David.
Voilà.
Et puis, les accords restent lettre morte, tout simplement. Et on arrive en 1987-93... avec le soulèvement, la première intifada qui éclate en 1987. Et du camp de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, il va s'étendre à l'ensemble de la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. C'est des émeutes de la jeunesse, souvent, des jets de pierre sur l'armée israélienne, des attentats aussi contre la population israélienne, des conflits à l'intérieur de plusieurs mouvances palestiniennes. Donc c'est déjà très compliqué. Et on peut... Cette guerre des pierres et puis la répression violente de Tsahal, donc des Israéliens, font en
tension,
gros 1000 morts palestiniens, 300 côté israélien.
Alors on dit la guerre des pierres parce qu'on a tous en tête encore ces images de ces jeunes qui prennent des pierres et qui essaient de combattre avec ces jets.
Et grâce à ces débordements, ou plutôt on va dire à cause de ces débordements, le Hamas naît alors. Il apparaît de son vrai nom, le Mouvement de Résistance Islamique, en vue de mener à la création d'un État musulman sur toute la Palestine. Donc, ce sont les excès inverses. Cette position radicale conduit à des affrontements sanglants, évidemment, avec l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP, qui étaient plus calmes durant l'été 92 et qui font 800 morts.
Donc là, on voit bien que des deux côtés, là encore, un peu comme au tout début, dès qu'il y a eu ces migrations de juifs vers la terre de Palestine, que les différents mouvements qui se constituent ont des choix des objectifs et des méthodes différentes. Il y a ceux qui ont plutôt la voie politique et diplomatique à cœur, mais qui ont pu aussi être dans l'action extrêmement violente. Voilà. Et puis, un peu fatalement, effectivement, à un moment donné, comme la situation dure, voilà, où d'autres forces se constituent, sont armés aussi par des alliés et c'est comme ça que qu'effectivement émerge le Hamas qui a vraiment comme projet, c'est vraiment la réponse la plus à mettre en parallèle avec le projet de la construction d'un État israël, c'est vraiment le contre-projet, c'est-à-dire de reprendre toute la terre pour faire un État musulman.
Donc cette intifada dure 6 ans. Et puis donc en 93, ce sont les accords d'Oslo. Des pourparlers secrets avaient eu lieu pendant des mois entre négociateurs israéliens et palestiniens. Et les deux parties s'entendent sur leur reconnaissance mutuelle et sur leurs droits politiques mutuels et légitimes. Ce sont donc les accords d'Oslo.
Alors, on peut peut-être là dire un petit mot sur le rôle des États-Unis quand même dans cette zone, parce qu'il y a eu en 91 la conférence de Madrid, et même si donc la dictature de Saddam Hussein n'est pas totalement vaincue, c'est pour les États-Unis quand même cette guerre du Golfe une victoire, et donc ils réaffirment en quelque sorte leur leadership mondial et régional. Notamment face à l'Irak et puis aussi l'URSS et puis par rapport à l'ensemble de l'Occident, pour le dire vite, et les États-Unis reprennent un petit peu la main en fait dans cette zone du monde Bon, bien sûr, eux ont par exemple comme objectif de renforcer leur mainmise sur le pétrole, hein, là c'est sûr.
Mais
il y a une pression des États-Unis sur Israël à ce moment pour négocier un compromis. C'est-à-dire que là, les États-Unis demandent à Israël d'accepter, discuter à nouveau pour trouver une solution au problème.
Et c'est bien cette époque-là que c'est l'OLP de Yasser Arafat qui accepte le principe du découpage temporaire des territoires palestiniens en trois zones. C'est celles dans lesquelles le contrôle israélien cesse pour les principales villes. Celle où il est partagé avec les Palestiniens et celle où il reste total. Et le nouveau Premier ministre travailliste Rabin, ou Rabin, je ne sais pas comment on prononce, et son gouvernement reconnaissent l'OLP comme représentante légitime du peuple palestinien.
Et là, c'est important, donc, cette reconnaissance légitime, parce que cela permet d'identifier un interlocuteur avec qui
et
les instances internationales...
Et une entente entre les deux parties, là.
Donc c'est un moment qui porte un peu d'espoir.
Voilà. Seulement, cet accord ne sera jamais appliqué en totalité par Israël. Et finalement, le processus déraille, on va dire ça comme ça. D'un côté, les actions palestiniennes hostiles aux accords multiplient les attentats. Et puis d'autre part, Yitzhak Rabin est assassiné en novembre 1995 par un militant de l'extrême droite israélienne.
On peut dire qu'il y a peut-être eu là, l'opportunité d'un apaisement et d'une voie diplomatique. Et pour conclure cette émission aujourd'hui sur ce sujet, on peut peut-être dire aussi qu'il faudrait voir émerger des hommes et des femmes porteurs d'une voie diplomatique pour une solution à deux États, suffisamment fort et suffisamment soutenu par la communauté internationale pour réussir à sortir pour la paix des peuples et palestiniens et israéliens
et une organisation plus précise pour
conflit.
Que ça puisse effectivement s'installer.
Oui.
Voilà.
Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur RCN. Au revoir, merci Huguette.
Au revoir.